BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, il sera 18h dans une minute. Bonsoir, bienvenue dans Les Experts sans frontières, car oui, nous sommes vendredi, donc nos experts sans frontières seront là dans un petit quart d'heure pour parler de la France, de l'Europe et du monde. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Des premiers jours de la guerre commerciale de Donald Trump, alors qu'a débuté contre la Chine, qui est déjà mis en suspens contre le Canada et le Mexique. Et puis vous avez l'Europe qui attend au milieu de tout ça de savoir à quelle sauce elle va être mangée. Les premiers pas du Doge d'Elon Musk pour tailler dans les dépenses publiques, on va en parler. On dira un mot du budget français avant enfin adopté, c'était avant-hier, c'était un temps fort de la semaine. Et puis ça sera le temps fort de la semaine prochaine, bien sûr, le sommet de l'IA lundi et mardi prochain, notamment du côté de Paris. Voilà le programme non exhaustif. Tout de suite, c'est le journal.
BFM Business, l'info éco.
Et le journal, il va commencer en parlant des chiffres du commerce extérieur pour 2024 qui sont tombés ce matin. Bonsoir Thomas Asportas. Le déficit commercial a été de 81 milliards d'euros l'an dernier. C'est mieux que l'année d'avant, mais enfin, il n'y a quand même pas de quoi tirer un feu d'artifice. Comment
Non, effectivement, oui, 80 milliards d'euros l'an dernier, c'est mieux que les 100 milliards de 2023, bien sûr. On prend 19 milliards de déficit en moins. C'est beaucoup mieux que les 163 milliards de 2022. Oui. C'est deux fois mieux. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces chiffres-là étaient de 2022 et 2023 étaient largement biaisés par l'envolée de la facture énergétique consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc il faut quand même rester prudent quand on compare les chiffres de 2024 avec les années précédentes. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le déficit commercial de la France en 2019, donc avant les crises, était de 59 milliards d'euros. Donc c'est ça l'ordre de grandeur en France. Le déficit commercial hors crise, il est de 60 milliards, pas de 80 milliards. Donc on voit bien qu'on n'est pas revenu à la normale. Alors pourquoi? C'est parce que l'an dernier, une fois encore, les exportations n'ont pas été à un niveau suffisant. Elles ont reculé l'année dernière de 1,6%. Les ventes dans l'automobile, les hydrocarbures, l'électronique, l'informatique, quand on regarde les chiffres des douanes, on voit que tout ça s'est replié. Le poids du Made in France dans le commerce mondial a reculé de 0,1 point l'an dernier. 0,1, vous me direz, c'est rien, mais enfin, chaque année, c'est comme ça. Ça a reculé de 0,4 point depuis le Covid. Ça ne veut pas dire pour autant que rien ne va. Non, c'est pas vrai. Les parfums, la cosmétique, la chimie, l'électricité ont une année record. On a vu ça, l'électricité, on a fait plus de 5 milliards d'excédents l'an dernier. La pharmacie, très bonne année. Bonne année aussi pour l'aéronautique, même si 2023 avait été encore meilleur. Mais tout ça n'a pas suffi à avoir au global un niveau d'exportation en croissance. Alors que dans le même temps, hasard du calendrier ou pas, ça je sais pas, l'Allemagne, ce matin, nous a annoncé un déficit commercial de 241 commercial de 241 milliards d'euros. On fait 80 milliards de déficit, ils font 241 d'excédent, dont 71 toujours d'excédent, hein, rien qu'avec les États-Unis. Ça nous donne quand même une idée du chemin qui nous reste à parcourir en plein retour des guerres commerciales.
Et nous, on est légèrement déficitaires par rapport aux États-Unis, je crois, de quelques milliards.
Ouais, de 4 milliards,
effectivement. Voilà pour les chiffres. Ce contraste est absolument saisissant, comme tous les ans, on fait le même constat. Voilà pour ces chiffres qui sont tombés ce matin. Merci beaucoup, Thomas. En France, toujours, on a des auto-entrepreneurs qui soufflent un petit peu ce soir. Un petit peu, pourquoi? Parce que vous savez que le gouvernement a suspendu sa décision d'abaisser à 25 000 euros de chiffre d'affaires le seuil à partir duquel il faudrait payer de la TVA. On suspend le temps d'en discuter. Écoutez, François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, qui a rencontré la ministre du Commerce ce matin à Bercy.
La ministre s'est d'ailleurs engagée, et je la remercie, à faire une étude d'impact et à nous la donner le plus vite possible. Elle nous a donné un calendrier qui est une fin de réunion à la fin du mois de février. Dans cette période, moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'on sorte rapidement de l'incertitude parce que, en fait, nos auto-entrepreneurs et nos, et tous ceux qui veulent créer et tous ceux qui portent aujourd'hui des projets sont dans une incertitude. Ils ne comprennent absolument pas la mesure et c'est extrêmement dommage d'avoir pris ça comme ça sans la moindre concertation.
Voilà François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, aujourd'hui à sa sortie de Bercy. Dans l'actualité ce soir, c'est le chiffre qu'attendaient les marchés financiers aujourd'hui. Le taux de chômage a reculé aux États-Unis en janvier pour atteindre les 4%. 4%, c'est le taux qui est considéré comme beaucoup comme le niveau de plein emploi à l'échelle des États-Unis. La Russie, elle annonce aujourd'hui qu'elle a fait 4,1% de croissance l'an dernier, qu'elle avait fait d'ailleurs aussi 4,1% en 2023. Les chiffres ont été revus à la hausse. Le Premier ministre russe s'en est félicité de cette expansion portée, dit-il, par les dépenses militaires. D'ailleurs, à ce sujet, c'est une étape très importante que vont passer dans quelques heures les trois pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie. Ils vont se déconnecter officiellement du réseau électrique russe, mine de rien. ils y étaient reliés depuis l'ère soviétique, tout simplement. Raphaël Couder.
Le compte à rebours est lancé à Vilnius, au cœur de la capitale lituanienne. Une horloge numérique géante décompte les heures qui séparent les pays baltes de leur intégration au réseau électrique européen. Demain, la Lettonie coupera physiquement le câble électrique qui relie les trois pays à la Russie. Les Baltes, qui sont intégrés à l'Union européenne et à l'OTAN depuis 2004, préparent cette transition depuis de longues années. Mais le découplage est devenu beaucoup plus urgent en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les trois pays craignant d'être les prochaines cibles de Moscou. Concrètement, les États baltes vont s'intégrer au réseau électrique européen via la Pologne. 1,6 milliard d'euros ont été investis dans ce projet de synchronisation. Le processus ne devrait pas entraîner de perturbations chez les consommateurs, assurent les autorités. Elles mettent cependant en garde contre de possibles cyberattaques en provenance de Russie. Signe de la tension que fait peser cette déconnexion, en Estonie, les ventes de groupes électrogènes ont explosé ces derniers jours.
Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, il y a cette info de la presse italienne qui nous dit aujourd'hui que Free, le français Free, discute d'une éventuelle fusion avec l'italien Telecom Italia, l'ex-monopole italien. Pas de commentaires, ni du côté de Rome, ni du côté d'Iliad, la maison mère de Free, bien évidemment. Et puis alors, il se passe des choses à la RATP. Figurez-vous que la RATP va permettre à ceux des agents qui le souhaitent de passer à la semaine de 4 jours. Ça a été testé pendant des mois. Aujourd'hui, chacun fait ses calculs et va donc se déterminer en conséquence. Reportage à la RATP d'Alexandra Paget.
Ravinder Antoine est agent de station à la RATP. À sa prise de service, une semaine sur trois, à 5h20 du matin, il effectue le tour de la station, en l'occurrence celle de Miromesnil, sur la ligne 9. Vérification des portiques, des dispositifs de validation des billets, etc. Il en a pour un bon quart d'heure, mais désormais, cette routine, c'est seulement sur 4 jours d'affilée.
Avant, c'était une alternance de semaines de 5 jours et 6 jours, avec des repos de 3 jours et 2 jours. Et maintenant, ce sont uniquement des semaines 4 jours, 2 jours de repos. J'ai la même amplitude de 7h15. En revanche, j'ai un dimanche en plus et un samedi soir en plus que je tiens beaucoup.
La RATP doit recruter 650 agents cette année. Alors la semaine de 4 jours fait partie des arguments destinés à séduire les éventuels candidats et à revigorer l'entreprise en mal d'attractivité. Jérôme Haine, responsable des ressources humaines de la direction opérationnelle des services et espaces multimodaux.
C'est un élément extrêmement important de proposer ces rythmes de travail pour attirer de nouveaux profils et également de fidéliser ceux qui étaient déjà en poste.
Ce nouveau roulement va être déployé courant février sur l'ensemble des lignes du RER et du métro. 5200 agents et 600 cadres auront désormais le choix d'adopter ou non ce rythme de travail.
Alexandra Paget, puis dans l'actualité des entreprises toujours, ça a été une des grosses infos de la journée. L'Oréal, on l'a appris, qui va investir dans la marque de mode indépendante Jacquemus. L'Oréal va même en devenir actionnaire minoritaire. Léa Rojo.
L'Oréal porte Jacquemus, la maison de couture qui était à la recherche d'un investisseur pour soutenir son expansion internationale a trouvé son partenaire. Jacquemus, qui veut diversifier ses activités, va désormais se développer sur le segment de la beauté avec ce premier partenariat à long terme. Il viendra soutenir le développement autonome du groupe tout en bénéficiant de la force de frappe de la division L'Oréal Luxe. De nouveaux produits signés Jacquemus seront donc sur le marché comme un parfum. Un partenariat gagnant-gagnant puisque Jacquemus vient compléter le portefeuille de marque de la division luxe de L'Oréal qui compte déjà Prada, Yves Saint Laurent ou Armani. L'Oréal va ainsi renforcer son leadership mondial, souligne Cyril Chapuis, le président de la division luxe. Les deux groupes ont en tout cas une volonté commune pour suivre leur développement aux États-Unis.
Voilà L'Oréal qui entre donc au capital de Jacquemus. Et puis tout autre chose pour terminer, vous savez que dimanche c'est la finale du Super Bowl, le championnat de foot américain. On attend environ 120 millions de téléspectateurs, d'autant que Donald Trump sera présent. Ça sera une première pour un président américain. L'autre première qu'on va surveiller à la télé dimanche soir, c'est la première pub que diffusera OpenAI pendant la retransmission. Mathilde Chaminade.
Jusqu'à 8 millions de dollars pour 30 secondes de pub. Les pubs du Super Bowl sont les plus chères au monde, un investissement inhabituel pour la maison mère de ChatGPT, peu adepte de marketing, contrairement à ses concurrents. Google, Microsoft et Anthropic ont déjà fait des pubs sur leur modèle d'IA au Super Bowl l'an dernier et devraient recommencer cette année. Google, par exemple, a prévu un spot publicitaire sur l'utilisation de son modèle Gemini par des PME. Même au-delà des spécialistes du secteur, l'intelligence artificielle est la tendance de l'année pour les annonceurs du Super Bowl. C'est Salesforce, Booking et Meta vont toutes mettre en avant leurs produits contenant de l'IA. Les pubs du Super Bowl, baromètre des tendances de la consommation américaine, avec pour la première fois cette année, une pub pour un médicament anti-obésité, toujours autant d'annonces sur des boissons et snacks salés. En revanche, les bandes annonces de films seront plus rares.
Voilà pour cette finale du Super Bowl dimanche soir qui opposera, je ne sais même plus qui, Antoine, avec tout ça. C'est pas très populaire chez nous. Hein,
non, mais Philadelphia Eagles contre les Kansas City Chiefs. Ouais. Kansas City, ils ont déjà gagné l'année dernière, on serait bien qu'il y ait un peu de changement. Philadelphie, je le verrais bien. Ouais. Bon. Et Kendrick Lamar à la mi-temps.
Et c'est Kendrick Lamar à la mi-temps, je me demandais. Là.
Deuxième fois en trois ans qu'il y apparaît.
Belle perf.
Et ça risque d'être un beau spectacle.
Il y aura un match Kendrick Lamar-Donald Trump pour le coup.
Ouf,
un match au Super Bowl qui va
oui, aïe, aïe.
Je vous le dis déjà. Allez, 19h09, on va sur les marchés tout de suite sur BFM Business. On a terminé en baisse, je crois, ce soir, Antoine.
Oui, effectivement. Moins 0,43%, 7973 points pour le CAC 40. À noter un beau volume d'échanges encore, 4,5 milliards d'euros d'actions négociées. Bon, on termine la semaine sur une petite hausse, hein, plus 0,3%. On a vu un beau redressement, notamment du secteur bancaire qui s'est très, très bien comporté. Tiens, Société Générale qui signe encore la plus forte hausse du CAC 40 de la journée, plus 3,3%, 36,10 €. On sortait d'une séance avec une hausse à deux chiffres déjà, donc on est reparti à plein sur le secteur bancaire. BNP Paribas plus 1,7, 69,45 €. Belle performance de Vinci avec ses bons résultats. Le titre gagne 2,4% à 109,85 €. Mauvaise pioche en revanche pour L'Oréal qui perd 3,5% à 340,60 €. Ben oui, il n'y avait pas que Jacquemus, il y avait aussi les résultats aujourd'hui. Ils ne sont pas très bons, les perspectives ne sont pas bonnes. Et alors vraiment, c'est Carib dans Scylla pour l'ensemble du secteur des cosmétiques en bourse hein, cette semaine. On a vu Estée Lauder qui a fait part aussi de très mauvais résultats, puis qui a annoncé 7000 licenciements, ça commence à faire lourd. Donc ouais, le secteur, dans le sillage, le secteur du luxe, hein, Hermès, moins 1,9%, 2706 €. Pernod Ricard qui était là aussi sur une lourde semaine hein, avec ses prévisions. Et puis les prévisions de Diageo également, le titre termine plus forte baisse du CAC, moins 4,7% à 100,65 €. Moins 0,43 pour le CAC, 7973 points, donc plus 0,39% sur la semaine. On n'a rien perdu, on a même dépassé les 8000 points en séance hier. L'euro 1,0346, bah oui, le dollar s'est un petit peu renforcé après les chiffres de l'emploi américain.
On garde évidemment Wall Street à la mi-séance, Antoine. On a un Dow Jones là qui est en train de perdre 0,6%, 44 467 points. Le Nasdaq de son côté, qui perd 1,2%, 19 555 d'un mot. Qu'est-ce qu'on retient à Wall Street
là,
en ce moment?
Là, on est en train de nager en plein délire hein, sur les tarifs. Il y a plein d'informations officieuses qui tombent ces dernières minutes. Alors, Donald Trump aurait dit, selon des sources bien informées, à ses sénateurs républicains qu'il avait l'intention, dès aujourd'hui, ou peut-être ce week-end, ou peut-être lundi, d'imposer aux États-Unis des tarifs réciproques. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les produits importés aux États-Unis subiraient la même surtaxe qu'ils subissent quand les Américains exportent des produits chez les pays partenaires. Enfin, c'est un sac de nœuds total. On apprend aussi que Donald Trump vient de signer un décret pour relever les minima en termes de surtaxe du côté des produits chinois. Mmh. Donc ça commence petit à petit. Va falloir digérer tout ça, va falloir dénouer le vrai du faux et un petit peu voir. Mais c'est clair que du côté de Wall Street, si on a opté clairement pour la baisse, c'est à cause de ça, c'est à cause de ces nouvelles. Hein. On a un petit accès de fièvre et puis ces incertitudes concernant ce qu'est capable de faire Donald Trump. Vous savez, sa dernière, il a signé un amendement qui, en fait, abroge le passage au paille-papier. Donc, retour aux pailles plastiques, désormais. Enfin,
c'est vecteur d'économie, ça? Même pas, non, à la limite. Non.
Mais j'en sais tellement rien.
Vivement le week-end pour Wall Street, apparemment. Ils vont y voir plus clair lundi à l'ouverture. Merci Antoine, bon week-end à lundi, bon 18h13. Week-end. Nos experts sans frontières sont là dans un instant jusqu'à 19h. On parle justement de la première semaine, les premiers jours de la guerre commerciale de Donald Trump. On parlera un petit peu de l'Europe, évidemment, et puis de ce sommet de l'IA qui va pas mal nous accaparer, forcément, en début de semaine à Paris, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h15, ils sont là comme tous les vendredis pour notre plus grand plaisir, nos experts sans frontières pour refaire l'actualité française, européenne, mondiale. Et Dieu sait s'il s'en est encore passé des choses à travers le monde cette semaine. Amy Wells est avec nous. Bonsoir Amy, bienvenue, enseignante chercheuse en civilisation américaine à l'université de Caen. Merci d'être avec nous. Louise Corradini est avec nous. Bonsoir Louise.
Bonsoir.
Bienvenue, correspondante en France du journal argentin La Nation. Il est avec nous en duplex des États-Unis, c'est Romuald Sciorra. Bonsoir Romuald, bienvenue. Directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Merci d'être avec nous. Puis Benaouda Vedaïm, bien sûr, notre éditorialiste international. Bonsoir Benaouda.
Bonsoir.
Et on rappelle bien sûr votre newsletter L'Envers du Globe. Le petit QR code est à l'image. Vous flashez le QR code ou vous allez sur notre site bfmbusiness.com. On vous montrera bien sûr le petit QR code à la fin de cette émission. Il s'est passé beaucoup de choses, à commencer par les premières passes d'armes sur le plan commercial entre Trump et certains de ses partenaires, Mexique et Canada, droits de douane dégainés ce lundi, tout était gelé. Après des coups de fil, la Chine, ils ont dégainé les Américains, les Chinois ont répliqué, mais pas toujours d'appel entre Trump et Xi Jinping. Et puis l'Europe qui attend, mais l'Europe s'attend à être aussi touchée. Écoutez, Donald Trump, c'était il y a 3 jours du côté de Washington.
Les Européens ont profité des États-Unis pendant des années. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils veulent un accord, je vous le dis. Ils veulent tous faire des accords. Il n'y a personne qui ne veut pas d'accord. Ils ont profité et maintenant ils veulent des accords. Donc on verra. Mais tout ce que nous voulons, c'est un accord équitable. Vous savez, il y a un mot. Ce mot, c'est réciproque. Je demanderai des taxes réciproques pour tout le monde. Parce qu'un grand nombre de ces pays pour lesquels vous vous inquiétez de la façon dont Trump les traite, eh bien ces pays nous font payer des taxes. L'Union européenne a une TVA exorbitante.
Voilà Donald Trump mercredi à la Maison Blanche. Amy Wells, comment est-ce que vous regardez ces premiers jours de guerre commerciale ? Alors, guerre suspendue avec le Canada et le Mexique, guerre larvée avec la Chine, puisqu'on a dégainé des deux côtés, mais les deux présidents doivent se parler, ça aurait dû se faire depuis mardi. Drôle de guerre, si vous me passez l'expression, avec l'Europe. Qu'est-ce que ces premiers jours vous disent, finalement, de la stratégie de Donald Trump, s'il y en a une, si tout arrive
à bah, c'est un peu ça, il faut se rappeler qu'il avait déjà entamé ces mêmes tarifs en 2018, oui. Hein, il avait déjà tenté ce coup-là. C'est un peu surprenant pour moi en tant qu'États-Unienne de voir qu'il a cherché le Canada, qui sont normalement nos amis. Puis la réaction des Canadiens qu'on a vu sur les réseaux sociaux, où ils ont enlevé tous les produits états-uniennes, notamment les boissons alcooliques des étagères dans les supermarchés, pour dire « achetez canadien ».
Oui.
Donc, je pense qu'en fait, il essaie de gérer le pays comme une entreprise. Il met une coup de négociation où il met le bar très, très haut pour avoir un peu de marge pour revenir sur une véritable accord par la suite. C'est comme ça que je vois les choses.
Benaouda, qu'est-ce que nous disent ces premiers jours sur la stratégie de Trump en la matière, si tant est qu'il y ait une stratégie uniforme vis-à-vis de chaque bloc, Canada, Mexique, Chic et demain Europe, finalement?
Pour ce qui concerne les droits de douane, son objectif est, dans le propos qu'il vient de tenir, c'est clair en parlant de réciprocité, c'est d'élever la part des droits de douane dans le budget du Trésor. Les recettes annuelles que représentent les droits de douane américains ces dernières années, c'est environ 2%. Et pour financer ces baisses d'impôts massives qu'il compte mener ces 4 prochaines années, il lui faut aller bien au-delà de ces 2% de droits de douane dans les recettes fiscales. Donc de ce point de vue-là, il essaye de trouver une issue, une colonne vertébrale et même un fil conducteur à l'ensemble de ces déclarations de bataille commerciale tous azimuts. Au demeurant, hormis rappeler encore et encore les excédents commerciaux que les uns et les autres ont, il est encore dans une phase où il se cherche, où des intérêts contradictoires s'expriment au sein même de son administration sur la stratégie à suivre, même si vous avez un certain nombre de ministres et pas des moindres comme le ministre du Commerce, ancien président de Cantor Fitzgerald, qui explique par exemple concernant l'Irlande qui représente une forme de d'excroissance du trésor américain sur le territoire de l'Union européenne, que ça ne pouvait plus durer. Et mais hormis ces déclarations, encore une fois, combinatoires et impressionnantes, On a encore du mal à passer aux travaux pratiques en réalité.
Vous, Romuald Seurat, on vous retrouve en direct des États-Unis. Est-ce que vous dites aussi que Donald Trump se cherche sa stratégie, si tant est qu'il y a une stratégie univoque sur ce sujet des droits de douane finalement?
Trump se cherche, son administration se cherche, mais il y a une stratégie, un peu confuse, je vous l'accorde, mais il y a une stratégie. Il y a trois objectifs principaux. Premièrement, la stratégie concernant l'international peut se résumer en une phrase, mettre à bas ce qu'il reste du système multilatéral moribond et de l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Donc, s'en prendre au Groenland, s'en prendre à l'OTAN, s'en prendre aux institutions onusiennes, etc., et s'en prendre à des accords bilatéraux qui ont été mis en place depuis plusieurs années, c'est jeter un pavé dans la mare de ce système international honni par Trump et son administration. Le deuxième objectif est, en s'en prenant à certains de ses plus proches alliés, en l'occurrence en ce qui concerne les taxes, le Canada et le Mexique, est de montrer à des rivaux plus puissants, plus dangereux potentiellement, regardez ce que je fais à mes plus proches amis, imaginez ce que je pourrais vous faire à vous si vous n'allez pas dans le sens voulu. Et troisièmement, car Trump n'a pas pris de gros risques avec le Canada et le Mexique, même s'il ne s'attendait pas à une telle réponse des Canadiens, pour moi il a toujours été évident que cela serait gelé très vite et qu'il n'irait pas au bout de ses menaces. N'oublions pas qu'il s'agit d'un showman et donc d'une stratégie globale. Le troisième objectif étant de plaire à ses électeurs. Depuis que Trump est entré à nouveau à la Maison-Blanche, il n'a que pour seul horizon que les élections de mi-mandat qui vont venir très vite l'année prochaine et il fera tout pour conserver le Congrès. Donc, complaire à son électorat. Donc, montrer ses muscles, parler haut et fort, jouer au nouveau shérif in town, comme on dit ici, va dans le sens de cette stratégie.
Obtenir des deals très vite, Amy Wells, parce que les droits de douane ont montré leur inefficacité lors du premier mandat. Donc, il va vite falloir passer à autre chose pour ne pas juste faire repartir l'inflation à l'horizon des mi-ternes, finalement. Donc, il faut aller vite. Voilà.
Tout à fait. Et puis, il veut mettre des attitudes avec ces tarifs et des accusations comme quoi il y a les drogues qui arrivent du Canada et j'ai trouvé ça un peu choquant personnellement.
Luis Corradini, comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que l'Amérique du Sud aussi doit trembler? Peut-être pas l'Argentine de Milei, mais peut-être d'autres pays limitrophes quand même.
Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est ce mot réciproque. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire réciproque? Pour un pays comme le Panama, par exemple, quand vous devez négocier avec les États-Unis, c'est l'empire contre les petits poussés, je veux dire. C'est du chantage, c'est scandaleux et c'est terriblement injuste. Et moi, je crois que ce n'est pas que le démantèlement du système actuel international, multilatéral, etc., etc. Mais c'est une autre chose beaucoup plus grave. C'est ça. C'est l'empire avec toute sa force. Moi, je fais ce que je veux et vous, vous n'avez d'autre solution que d'obéir.
Qu'est-ce qui explique Ben Aouda que, pardon de le dire comme ça, Trump n'est pas encore dégoupillé vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que c'est parce que l'Europe, c'est plus compliqué? Parce que c'est un travail de fourmi? Parce que c'est du cas par cas?
Parce que c'est 16 milliards de dollars de PIB cumulé, 150 millions de consommateurs. Et l'axe Paris-Berlin-Rome, c'est quand même 3 des 7 membres du G7. Donc, ce n'est pas Panama, mais même Panama se rebiffe. Le président panaméen a osé dire clairement que ce qu'a dit l'administration Trump concernant la gratuité du passage pour les navires qui traverseraient le canal de Panama était un mensonge. Donc, même le Panama se rebiffe, peut-être même avec plus de vigueur qu'un certain nombre de puissances extérieures, y compris la Chine ou l'Union européenne, ce qui montre que il est encore dans une phase où il recherche le niveau d'épreuve de force avec tel ou tel partenaire ou adversaire plutôt, et qu'il n'a pas encore trouvé ce point d'équilibre. Il n'y a qu'à voir comment Marco Rubio, prenant l'avion pour Panama, tient un discours, arrivé à Panama, il en tient encore un autre, et de retour à Washington, il en tient encore un troisième. Donc de ce point de vue-là, ils sont encore, malgré tout, dans une phase de recherche.
C'est-à-dire que la mécanique Trump n'est pas aussi bien huilée que certains auraient pu le penser. Certains disaient, il est prêt, il est mûr, sa politique est prête, il est prêt dans sa tête, il est au clair dans sa tête. Non, pas véritablement, Amy, finalement.
Il a essayé non seulement pour les tarifs, mais pour d'autres point politique. Il a fait beaucoup d'ordres exécutifs qui finalement ne sont pas juridiquement valables.
Ils sont beaucoup contestés en justice,
on l'a expliqué. Beaucoup d'annonces, et puis ce n'est pas légal ce qu'il a proposé. Quand il va être bloqué, ses fans vont dire mais c'est le gouvernement qui le bloque. Et ce n'est pas vrai, c'est qu'il a osé des choses qui sont illégales complètement.
Oui, Ben Aouda.
Oui, Antoine Larrey-Gaudry nous parlait de ce décret exécutif sur les pailles. Il a décidé que les pailles, un retour aux pailles en plastique, ça peut faire sourire. Mais je peux vous assurer que dans l'ensemble des fast-food des États-Unis, il y a beaucoup de gens qui seront très heureux.
Bien sûr.
Ce sont eux qui votent, et qui votent, comme nous l'a dit notre invité depuis New York, au mid-term. Et ce sont ces décisions qui peuvent paraître risibles, mais qui sont tout à fait sérieuses, qui peuvent aussi faire basculer une partie de l'électorat en sa faveur.
Vous nous confirmez qu'à ce stade, il y a encore beaucoup de membres de l'administration, beaucoup de ministres, de secrétaires qui ne sont pas en poste aujourd'hui à Washington, Amy, à ce stade.
Vous voulez parler de toutes les fonctions qui ont été mis en chômage technique.
Et même des postes de ministres au sein de l'administration. Certains ne sont pas encore en poste aujourd'hui,
parce qu'il y a des vacances de poste, et puis il y a toujours des processus pour entendre des candidats, et on n'a pas encore un cabinet et des ministres complets, fait. Mais est-ce qu'il va les écouter une fois qu'ils sont là?
C'est un autre débat. Les écoutera-t-il de toute façon? C'est une vraie question. On marque une petite pause. On revient dans deux petites minutes sur BFM Business. On va parler d'Elon Musk qui commence aussi son travail de... Comment on appelle ça? Dégraissage du mammouth. C'est du côté de l'Agence nationale de développement international que les choses se bougent. Il y a eu des grosses manifestations aujourd'hui à Washington. On va vous raconter ça. Est-ce que Musk est en train de prendre l'exemple d'un certain Javier Milei notamment? On en parlera dans un instant. Tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 19h29, on est toujours avec nos experts sans frontières, Amy Wells, Romuald Sciorra, Luis Corradini et Ben Aouda Abdedaïm. On va parler un petit peu du tandem Trump-Musk qui a commencé à dévoiler ses intentions en ce qui concerne, vous savez, l'administration, la recherche des coûts. Regardez une minute ce reportage de Benoît Ballet de B. Washington. Parce que depuis quelques heures, c'est du côté de l'Agence américaine pour le développement international que ça se passe. Agence qui draine des milliards de dollars d'aide à travers le monde, sauf qu'elle est partie pour perdre 97% de son personnel. Grosse manifestation aujourd'hui devant les locaux. Benoît Ballet, donc, à Washington.
C'est une décision de l'administration Musk qui est notamment poussée, l'administration Trump. Excusez-moi pour ce lapsus. Ça reflète bien la situation actuelle ici à Washington. Tous ces manifestants, alors pour beaucoup ce sont des militants des droits civiques. Quelques employés fédéraux sont présents. Ils sont menacés parce que Donald Trump et Elon Musk estiment qu'il y a trop de dépenses qui peuvent être évitées à l'intérieur de cet organisme fédéral USAID, donc qui assure finalement qui donne des fonds au niveau mondial pour l'aide humanitaire. Et donc, voilà, l'administration Musk a décidé de licencier la plupart de ses employés qui vont donc perdre leur travail d'ici ce soir. Et il n'y a pas seulement eux qui sont concernés par des baisses de budget et donc des licenciements. L'administration Musk a donné jusqu'à lundi prochain midi à ces quelques 2 millions de fonctionnaires pour choisir entre démissionner et être payé jusqu'au mois de septembre et rester en poste, mais se soumettre aux nouvelles attentes de l'administration. D'après le gouvernement actuel, d'après le gouvernement américain, ce serait plus de 60 000 personnes qui auraient déjà accepté de quitter leur poste. L'objectif, c'est de faire des économies en donc licenciant un maximum de personnes dans l'administration.
Voilà, Benoît Ballet. Oui, apparemment, sur les quelques 10 000 employés de cette agence, il devrait rester 611 employés à la fin. Donc, vous voyez effectivement l'effort et l'ampleur de ce qui attend cette administration. Romuald Sciorra, vous êtes à New York. Qu'est-ce qu'on dit chez vous de cette première opération dégraissage, comme on dit? On a souvent expliqué ici que la dépense publique fédérale, c'est 6 000 milliards que Musk s'était donné pour objectif d'en économiser 2 000, mais que c'était évidemment absolument infaisable, Romuald.
Écoutez, tout dépend de l'opinion des personnes avec qui vous conversez. Une majorité d'États-Unis aujourd'hui soutiennent ces mesures, une fois encore. Hein. Trump 2025 n'a rien à voir avec Trump 2027. Il est soutenu par une majorité des Américains et très populaire malgré ce que l'on peut parfois un petit peu croire ou lorsque l'on veut s'illusionner sur la situation ici. C'est catastrophique selon évidemment mon point de vue. C'est un projet qui
C'est surtout irréaliste, disent beaucoup Romuald. C'est surtout irréaliste de dire je vais effacer 2000 des 6000 milliards de dollars de dépenses fédérales publiques.
Mais évidemment, c'est irréaliste. C'est irréaliste comme de vouloir déporter 12 millions d'immigrés illégaux, etc., etc. Néanmoins, une partie de ce plan va être mis en œuvre. Cela a déjà commencé. Et cela laissera des traces. Mais je dirais qu'au-delà de ce plan qui est irréaliste, c'est l'état d'esprit de la nation américaine que le couple Musk-Trump tente de modifier. Je me permets de revenir sur cette histoire de paille. Comme l'a dit votre commentateur, c'est absolument pas anecdotique. Elon Musk est un des grands partisans de revenir aux pailles en plastique et vous ne pouvez pas imaginer les débats qui ont lieu autour de ce sujet ici. Donc, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une contre-révolution culturelle d'un certain côté, contre le wokisme, etc., et une contre révolution, je dirais également socio-économique. Les Américains aujourd'hui sont en train d'embrasser cette nouvelle vision et donc même si effectivement le projet dégraissage de l'administration américaine tel qu'il est présenté par le duo Musk-Trump est irréaliste, il en restera toujours quelque chose comme de ces plans déportation de 12 millions d'immigrés illégaux, même s'ils ne déportent à la fin que 2-3 millions de personnes. Croyez-moi, l'ambiance ici est en train de changer. Et je me permets juste de rebondir sur ce que disait tout à l'heure l'un de vos invités lorsqu'elle parlait d'un nouvel empire. Effectivement, il ne s'agit pas que de mettre à bas l'ordre multilatéral, mais de revenir à un ordre international semblable à celui du 19e siècle sur la scène internationale, mais aussi intérieure, une présidence impériale. Mmh. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui.
Benaouda Abdedaïm.
Le parallèle avec la révolution culturelle saute aux yeux en réalité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle maintenant les Doge Kids. Ils ont 19, 20, 21. Le plus âgé d'entre eux doit avoir 25 ans, qui vont frapper aux portes des administrations et en clair, donnez-nous vos ordinateurs, vos passes et c'est nous qui prenons les affaires en main. Alors, vraiment, comparaison n'est pas raison, mais il faut se rappeler qu'en 1966, Mao Tse-Tung, en lançant la révolution culturelle, s'est appuyé sur comme fer de lance de cette révolution contre les vieilleries, les vieilles habitudes, les vieilles coutumes, sur la jeunesse lycéenne et étudiante qui n'a pas été polluée par l'esprit des traditions ancrées au sein de l'administration, au sein de la haute fonction publique. Et le parallèle paraît frappant. En s'appuyant sur de très jeunes gens pour pouvoir insuffler un nouveau état d'esprit au sein de l'administration fédérale américaine, c'est aussi en quelque sorte une révolution culturelle qui est en train de mener Donald Trump. Encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais on peut aussi rappeler comment c'était en 1966 en Chine.
Vous approuvez, Amy Wells, ce qui vient d'être dit
Oui, mais il faut savoir que ce que Musk fait au sein du Department of Government Efficiency, le Doge, c'est assez choquant. Moi, j'avais vu dans un article de Economic Times qu'il y a 52% des personnes interviewées qui ont un avis négatif sur Musk lui-même. Donc, on ne comprend pas trop ce qu'il fait là, parce que oui, il est citoyen américain depuis 2002, il est naturalisé, mais il n'a pas été élu, il n'a pas son autorisation de sécurité. Il fait un peu, pour plusieurs personnes, il fait un peu n'importe quoi. Et justement, de déployer ces jeunes... Ça fait partie, ce sont ces petites troupes qu'il envoie pour faire son travail et on est assez choqués.
Il avait recruté sur les réseaux sociaux toutes les bonnes volontés justement pour intégrer ce nouveau département. On a mis en sous-titre la question suivante. Luis Corradini, dont je rappelle correspondant en France du journal argentin La Nation, Musk est-il un copier-coller de Javier Milei, qui lui aussi a entrepris ce travail de débroussaillage des administrations. On se souvient de ces images de la tronçonneuse à Fuera, quand il retire d'un tableau Velleda, je crois, les noms des ministères.
Il y en a une dorée sur son bureau à la Casa Rosada de Buenos Aires.
Ouais. Est-ce que vous faites la parenté de pensée aujourd'hui entre Musk et Milei?
C'est vrai, c'est un titre fantastique parce que c'est un copier-coller. Simplement, Musk a agi aux États-Unis et Milei en Argentine. Et je voulais vous donner quelques chiffres pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne, cette tronçonneuse, oui. cette politique anarcho-libéralisme. En un an de gouvernement, en Argentine, jusqu'à septembre dernier, l'économie s'était réduite de 3,3%. La construction a chuté des 24%. L'essence a augmenté des 350%. Plus de 200 000 emplois ont été détruits. L'industrie s'est réduite de 6%. Plus de 16 000 petites et moyennes entreprises ont été fermées. L'eau, le gaz et l'électricité ont augmenté de 400%. Les salaires du service public ont baissé de 16% et ceux du secteur privé du 4%. Le SMIC s'est réduit de 28%. Mais il y a quelque chose de plus dramatique encore, Guillaume. La pauvreté a augmenté de 11 points. Jusqu'à septembre, il y a eu 5 millions de pauvres supplémentaires dans un pays de 40 millions d'habitants, dépassant même les 60%. Dans le pays de la viande, 8 Argentins sur 10 ont réduit leur consommation à son plus bon niveau en 110 ans. Et il a également eu un record historique de réduction de la consommation de lait. Enfin, je pourrais continuer infiniment. Et c'est ça l'anarcho-libéralisme de Javier Milei. Il m'est difficile de comprendre comment les économistes libéraux intelligents peuvent s'arrêter à la seule réduction de l'inflation et penser qu'y arriver en coupant les financements de la santé, l'éducation, la recherche ou des services publics indispensables à la frange la plus fragile d'une société soit une excellente façon de gouverner.
Toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison, comme vous dites, Ben Aouda, est-ce que c'est annonciateur un tant soit peu de ce qui pourrait attendre les États-Unis dans quelques mois si effectivement cette politique porte ses fruits? Est-ce qu'on a d'autres, alors qu'on
la
a dit évidemment
méthode,
l'effort,
la phraséologie, ce geste, ces discours enflammés, etc. Il y a un parallèle évident.
Là, il y a un symbole joué avec cette agence fédérale. Voilà.
L'échec est patent en Argentine depuis des majorités. Donc, premier point qui plaide en réalité à ce que les pleins à travers le monde continuent à donner sa chance à Javier Milei. Premier point. Et deuxième point, on va parler de copier-coller entre la première puissance économique mondiale et un État qui est un État du Sud, un État, jadis on aurait dit du tiers-monde, maintenant on dit en pays en développement. Donc ça n'a pas grand sens de comparer l'Argentine ni avec les États-Unis, ni avec un quelconque pays de l'Union européenne. C'est juste que effectivement c'est un personnage politique marquant, qui frappe les esprits bien au-delà de ses frontières. C'est pour ça que certains politiques ont une sorte de fascination pour lui, mais ça reste un chef d'État d'un État du Sud, un État, encore une fois, comme on disait jadis, du tiers-monde.
Amy Wells, sur ce parallèle entre, peut-être par appel un petit peu usurpé, démesuré.
Oui, puis il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, nous avons ce qui se passe au niveau fédéral et puis au niveau de l'État.
Oui.
Parce que maintenant qu'on est sur une administration de Trump, on a des États avec des gouverneurs conservateurs qui suivent le programme. Donc, dans l'État de Texas, par exemple, on vient d'avoir une loi qui est mise en place pour définancer les écoles publiques, qui fait écho avec ce que Musk veut faire avec le Doge, en réduisant le département d'éducation. Donc, je suis un peu moins rodée sur le politicien argentin, mais ce que j'ai surtout vu, c'est sur les réseaux sociaux, il y a des mèmes qui les met ensemble avec des lasers qui sortent de leurs yeux, et on voit que la comparaison semble passer au moins dans la culture populaire.
Romuald Sura, vous dites ce travail de dégraissage, pardon, j'emploie le terme avec répétition, ça durera comme tout ce que durera l'entente Musk-Trump, évidemment.
Alors écoutez, deux choses, juste pour revenir sur le parallèle Milei-Musk, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que Milei, je ne partage pas ses idées politiques, mais œuvre, en tout cas c'est ce qu'il croit, pour le bien de l'Argentine, il y croit. Musk a une mission et sa mission dépasse de loin les États-Unis, ce n'est qu'un moment dans sa carrière, donc il ne faut pas du tout oublier que les objectifs des deux hommes, même s'ils peuvent sembler similaires aujourd'hui, ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour revenir à ce que vous disiez, pardonnez-moi, pouvez-vous répéter votre question?
Non, la question c'était de savoir si ce travail de dégraissage durerait ce que durait l'entente Musk-Trump. Voilà, c'était
la
question qu'on pose à peu près toutes les 15 jours, 3 semaines. J'en ai bien conscience, quoi. Mais elle va s'en poser.
Mais je fais partie de ceux qui, on n'est pas nombreux, qui pensent que le duo Trump, mais je crois, Maître Ismail, à votre antenne il y a une quinzaine de jours à ce sujet, va durer. Alors pour l'instant, on est vraiment dans ce que j'appelle une romance adolescente. Ils passent leur temps ensemble, ils se touchent, ils sont vraiment, vraiment, c'en est ridicule. Évidemment, ça ne va pas durer. On parle de deux égos surdimensionnés. Il va y avoir des étincelles, mais ils sont otages l'un de l'autre. Pourquoi ?
Le plan Stargate a déjà créé quelques étincelles apparemment entre les deux. Hein,
tout à fait, mais c'est pas. On a déjà vu pour les visas pour des immigrés hautement qualifiés, etc. Il y aura des étincelles. Il va y en avoir. Mais à l'heure qu'il est, n'oubliez pas deux choses. Elon Musk, c'est pas Steve Bannon, l'ancien conseiller qu'on pouvait virer comme ça, qui n'était pas connu du grand public, au Rex Tillerson, le premier secrétaire d'État. Virer Elon Musk est très dangereux à un an des primaires ou à quelques mois des primaires si il devait y avoir des tensions à ce moment-là. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, il est à la tête de X, c'est une arme terrible si Trump devait s'en faire un ennemi. Donc Trump mettra de l'eau dans son vin avec Musk au moins jusqu'au 4 juillet 2026, puisque c'est la date officielle de la remise de tous les rapports de Musk et de la fin de sa mission. Oui. Du côté de Musk, il mettra également de l'eau dans ce vin, car Trump lui offre le pouvoir temporel. Jusqu'alors, il avait une énorme influence spirituelle, entre guillemets. Il a aujourd'hui le pouvoir. Donc lui aussi, et on l'a vu d'ailleurs en ce qui concerne les visas pour les immigrés hautement qualifiés, lui aussi mettra de l'eau dans son vin. Donc je pense que ce grand chantier de restructuration de l'État fédéral et les dommages que cela va causer aux États-Unis vont malheureusement se poursuivre, s'ils n'iront pas jusqu'au bout, jusqu'au moins au 4 juillet 2026.
Et nous tirerons le bilan à ce moment-là. Oui, Ben Aouda, vous voulez rajouter?
Oui, en effet, Romuald Sura a posé le doigt sur un point très important. Elon Musk, son problème, ce n'est pas les États-Unis ou l'Union européenne, c'est une révolution culturelle. À la manière dont il a réussi, lui, Peter Thiel, David Sachs, un certain nombre d'anciens sud-africains, parce qu'ils sont très nombreux, des sud-africains nés du temps de l'apartheid, à mettre dans la tête de Donald Trump que le problème numéro un en Afrique, c'était la réforme foncière en Afrique du Sud, une redistribution des terres, des blancs vers les noirs, en Afrique du Sud, et que l'Afrique du Sud était maintenant l'adversaire numéro un, peut-être même à l'échelle de l'ensemble des BRICS. Ça montre leur puissance de conviction et leur capacité à convaincre au sommet de l'État. Donc ce n'est pas uniquement s'occuper de tel ou tel bureau qu'il faut fermer ou tel ou tel fonctionnaire. Ils entendent remodeler l'esprit des États-Unis, l'esprit de l'Amérique, et en cela, pour l'instant, ils sont en train d'y arriver.
Ça résonne aux oreilles de la journaliste argentine que vous êtes aujourd'hui. On parle de révolution culturelle chez vous aujourd'hui en Argentine, Luis Corradini.
Ah, le gouvernement.
Il essaye.
Essaye de provoquer une révolution culturelle, et c'est vrai que.
Où est-ce qu'il en est en termes de popularité aujourd'hui, Milei, chez vous aujourd'hui?
Après le discours épouvantable qu'il a fait à Davos il y a 15 jours, où j'étais pour la deuxième fois depuis qu'il a été élu, il y a eu comme une réaction, parce qu'il est aussi obsédé par le wokisme, et donc il dénonce des choses, il dit n'importe quoi. Par exemple, tous les homosexuels sont des pédophiles. Et ça a été terrible pour l'Argentine, tout simplement parce que c'est un pays qui a des lois sociales très avancées. Et donc, tout ce qui est féminisme, tout ce qui est enfin des disparus, évidemment, à cause de la dictature militaire, tout ce qui est droit des homosexuels, c'est très important et ce sont des lois très avancées. Alors, il y a eu une réaction sociale profonde. Les gens ne pouvaient pas croire qu'il fasse un discours aussi épouvantable et on ne comprend pas pourquoi. Moi, j'ai la théorie que Donald Trump fait semblant, parfois, d'être fou et que Milei l'est. Et c'est ça le danger. Parce que lui, il est absolument obsédé et convaincu de ce qu'il dit. Et quand il arrive à Davos et il dit que l'Occident et surtout les Européens ont fait fausse route, il les accuse de tous les maux de la planète, tous les maux de l'Occident, etc., etc., il est parfaitement convaincu. Il veut cette révolution culturelle.
Allez, 18h46, on marque une petite. On revient dans 30 secondes, on va parler un petit peu de la France qui a enfin un budget. Vous me direz si ça suscite un commentaire ou pas dans la presse chez vous, peut-être pas. Et puis ça sera quand même le temps fort de la semaine prochaine, le sommet de l'IA à Paris en début de semaine. Il y aura beaucoup de beau monde côté américain, notamment J.D. Vance entre autres, qui va venir, et beaucoup de patrons, on va essayer d'en dire un mot évidemment. On est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.
Allez, 18h47, encore une grosse dizaine de minutes avec nos experts Amy Wells, Romal Sora, Luis Corradini et Benaouda Abdedaïm. Alors la France qui a un budget, ça a été voté définitivement mercredi soir. Écoutez, François Bayrou ce matin chez nos confrères d'RMC qui se projette déjà vers le budget 2026. Écoutez.
Dès l'instant, ça sera mercredi, que tous les budgets de la nation seront adoptés. Je vais donner la mission à tous les ministres et toutes leurs administrations de partir de la question « Quelles sont les missions de l'État ? » Et est-ce que ces objectifs sont remplis ? Et est-ce que les moyens qu'on leur donne sont bien placés ? Pas seulement sont suffisants, mais sont bien placés. Cette refondation en profondeur, on va l'appliquer.
Voilà, François Bayrou qui prépare déjà le budget 2026, qui sera une autre paire de manches. On a eu l'occasion de l'expliquer sur BFM Business. Est-ce que la presse anglo-saxonne, est-ce que chez vous, aux États-Unis, on a suivi les pérégrinations du budget s'étonne de voir qu'enfin le 5-6 février, la France se dote d'un budget, Amy Wells.
J'avais pas vu l'article ou des titres sur ça, mais je peux dire juste deux mots en tant qu'enseignant-chercheuse. Bien évidemment, les étudiants et les enseignants-chercheurs suivent de près le budget et le fait qu'il y a cette réduction pour l'éducation, l'enseignement et l'enseignement supérieur. On a eu des campus bloqués cette semaine. Voilà.
Oui.
Notamment chez moi.
Notamment chez vous, oui.
L'université de Caen.
À l'université de Caen.
Un jour, un seul jour, mais quand même pour marquer le coup.
Mais le mot est moins significatif. Romol Sura, je ne sais pas si la situation française vue de New York suscite les passions autant que les pailles en plastique, mais je vous pose la question par acquis de conscience.
non, pas autant que les pailles en plastique. Par contre, effectivement, dans les milieux universitaires, académiques, journalistiques, oui. Écoutez, hier, je déjeunais avec le directeur du magazine The Nation, qui est un magazine très à gauche, mais qui me disait qu'on avait un petit peu l'impression qu'on était revenu effectivement à la 4e République, que tout ça semblait un petit peu ubuesque. Et ce que j'entends dire à droite, à gauche, c'est que Emmanuel Macron a terminé son mandat. Pour les journalistes, pour les intellectuels américains, c'est fini. Cette dissolution a été ridicule. Et aujourd'hui, on va de succession de crises en succession de crises. Donc même si François Bayrou est apprécié de la grande presse américaine, me semble-t-il, peu de personnes miseraient à long terme sur son gouvernement ici.
Bon, il n'y a pas eu de problème de décision pour prendre le budget, voter le budget en Argentine, Luis Corradini.
En Argentine, le problème n'était pas ça. Le problème, c'était est-ce que le gouvernement Bayrou va tomber ou pas.
Oui.
Ils suivent de très près ça.
Ah, ils suivent ça très près chez vous.
Si, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je vous disais qu'en Argentine, ils admirent beaucoup, ils aiment beaucoup le président Macron.
Oui.
Donc c'est vrai que là-bas, et en général en Amérique latine, le président n'a absolument pas l'image que les Français ont de lui. Tout au contraire, ils apprécient énormément son attitude vis-à-vis de l'international. Ses valeurs vis-à-vis de l'Europe, ses valeurs vis-à-vis de l'Ukraine, ses valeurs vis-à-vis du monde multilatéral dans lequel nous vivons et qu'il faut préserver. Donc c'est un personnage très important pour les Argentins et pour le reste de l'Amérique latine. Et en ce qui concerne le gouvernement, naturellement, chaque fois qu'un gouvernement tombe, c'est tous les deux mois, alors ça préoccupe l'opinion publique.
Il n'y a pas encore l'image de ce qu'on appelle le lame duck chez vous aux États-Unis, le canard boiteux, Amy Wells.
Tout à fait, c'est le terme qu'on utilise entre la période entre les élections en novembre et l'inauguration d'un nouveau président le mois de janvier. C'est une période qui est assez particulière.
Alors, sur la scène nationale, Emmanuel Macron, effectivement, n'a peut-être plus beaucoup de poids. Par contre, il va essayer de briller de tous ses feux en début de semaine lors du sommet de l'IA qui se tient à Paris. Il y aura beaucoup de rendez-vous d'ailleurs à suivre sur BFM Business au Grand Palais lundi à Station F du côté de Station F mardi. La France commence déjà à faire des annonces. Emmanuel Macron fait la retape, entre guillemets, de cet événement dans la presse ce soir. Écoutez, tiens, Clara Chiappaz, il y a quelques heures, la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle, qui dit que la France va faire la démonstration de tout son potentiel sur le sujet.
Je pense qu'il faut, et ce sommet doit être absolument un réveil là-dessus, peut-être arrêter penser à ce qui est développé aux États-Unis, ce qui est développé de l'autre côté, mais se concentrer sur nous, ce qu'on développe ici. Quand les États-Unis, d'un côté, annoncent 500 milliards d'investissements dans de l'infrastructure et que dans le même temps, trois jours après, modèle d'intelligence chinoise se serait entraîné sur un budget bien moins grand, 5-6 millions d'euros. Ça nous montre bien une chose, c'est que l'état de la science autour de la technologie d'intelligence artificielle est encore en évolution et donc il faut absolument qu'on se concentre sur nos forces, les talents, pour pouvoir rester dans cette course où on est très bien positionné.
Voilà Clara Chappaz, la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle. Donc on a eu en l'espace de 15 jours le plan Stargate à 500 milliards. Des questions sur le financement quand même, c'est pas, tout n'est pas encore transparent. DeepSeek, l'IA chinoise, et puis quelques annonces là qui commencent à arriver du côté de la France. Bon, BPI France qui nous dit tout à l'heure on va investir 10 milliards d'euros sur quelques années. La fonction publique qui va lancer son logiciel conversationnel similaire à ChatGPT, et puis quelques annonces de Mistral. Mais on ne fait pas le poids. Malheureusement, toujours pas. Enfin,
En fait, ce qui est intéressant, c'est que J.D. Vance vienne pour le sommet. Et ils viennent parce que, oui, c'est le vice-président, mais il faut se rappeler aussi qu'elle a quand même travaillé à Silicon Valley pendant 9 ans.
Oui.
Et je pense que dans son profil de candidat de vice-président, on n'avait pas forcément gardé ça en tête. Normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû pouvoir contribuer à la discussion.
Ben Aouda Abdedaïm.
Il y a J.D. Vance qui, après, ira à la conférence de sécurité de Munich. La semaine d'après, et il y aura aussi le vice-premier ministre chinois Zhang Guoqing, qui est vraiment un pilier de la politique numérique. Ce n'était pas acquis qu'il y ait un représentant chinois d'un aussi haut niveau qui vienne à Paris pour un sommet entre occidentaux, en quelque sorte. C'est aussi une manière de pour la France et pour l'Europe de tenter de montrer qu'il y a un entre-deux possible entre DeepSeek et OpenAI. Et paradoxalement, il y a un certain nombre d'articles dans la presse américaine qui disent s'il y en a à peu près un Européen, pas deux, pas trois, qui peut s'en sortir dans cette affaire-là, entre ces deux-là, c'est Mistral AI, le français. Mm-hmm. Avec l'idée qu'il faut un contre-pouvoir à ce duopole sino-américain. Est-ce que ça va se réaliser ? Je n'ai aucune compétence en la matière pour le dire, mais en tout état de cause, c'est quand même considéré comme s'il y en a un peut-être qui pourra.
Oui.
C'est ce pilier français au milieu de ce duopole sino-américain dans l'intelligence artificielle.
Mistral qui a déjà annoncé, qui a déjà fait une première annonce, qu'il y en aura d'autres, on imagine, la semaine prochaine, mais qui lance une nouvelle version de son assistant, le chat, en régie de nouvelles fonctionnalités, avec une offre entreprise, mais il y aura d'autres annonces la semaine prochaine. Alors, ce sommet co-présidé par la France et l'Inde, hein, c'est ça qu'il faut préciser, effectivement.
Narendra Modi. Ouais. Et à voir, par exemple, comment le président des Émirats Arabes Unis est venu...
A été reçu hier par Emmanuel Macron.
Très marqué, dire qu'il allait investir massivement dans l'intelligence artificielle en France. Bon... peut-être un contrepoids au fait que OpenAI va ouvrir son bureau à Munich à Paris. Mais en tout état de cause, il y a un certain nombre de ces puissances émergentes, que ce soit l'Inde, les Émirats Arabes Unis, qui veulent aussi placer leur bille dans ce domaine ailleurs que à Shanghai ou dans la Silicon Valley.
Romuald Soria, vu de New York, comment est-ce qu'on regarde les velléités de l'Europe en matière d'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on regarde ça avec, avec sympathie ?
Oui, j'allais dire bienveillance, mais avec sympathie. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est très important, ce sommet. Emmanuel Macron a tout à fait raison. Mais bon, tout ça est quand même un petit peu flou. Et il faudrait, si vous voulez, que l'Europe, la France, l'Europe rattrape son retard, le retard vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Il faudrait investir sans s'arrêter et massivement, et cela jusqu'en 2050. Il me semble impossible d'ici 20, 25 ans de rattraper le retard. Et je doute que l'Europe puisse investir si massivement, donc je crains que nous restions, nous Européens, enfin je dis nous, je suis franco-américain, mais là je mets du côté européen, à la traîne face aux deux géants. Mais vous savez, au-delà de cela, il faudrait qu'il y ait quand même aussi une prise de conscience des élites françaises de l'importance de l'intelligence artificielle. D'après ce que je sais, près de la moitié des membres du gouvernement actuel, celui de Barnier, n'ont jamais essayé ChatGPT. On en est quand même là.
Paraît-il, oui. Louis Corradini, et l'Europe de l'Amérique du Sud dans tout ça. Alors,
Vous savez, on dit souvent que l'Amérique invente, les Chinois copient et les Européens régulent.
Oui.
Et donc, je dois évoquer le European AI Act, que j'ai trouvé très intéressant, dont le premier chapitre est entré en vigueur cette semaine. D'un autre côté, je lisais les déclarations de Jake Sullivan, le secrétaire d'État à la défense du gouvernement Biden, qui disait « c'est absolument impossible de réguler l'intelligence artificielle, parce que c'est une question de sécurité nationale ». Alors, que va-t-on faire ? Je ne sais pas, les Européens sont devant un défi. Comment vont-ils faire pour réguler l'intelligence, le développement gigantesque de l'intelligence artificielle.
Ça fait partie des nombreux débats qui seront évoqués la semaine prochaine à Paris. On en parlera bien sûr sur BFM Business à travers ces différentes journées. Sommet de l'IA donc qui débute lundi chez nous à Paris. C'est déjà terminé pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'être venus. Amy Wells, enseignante chercheuse en civilisation américaine à l'université de Caen. Louise Corradini, correspondante en France du journal argentin La Nation. Romuald Ciora, qu'on salue, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS depuis New York. Merci beaucoup. Romuald, à très vite. Ben Aouda Abdedaïm, notre éditorialiste international. Et je vous rappelle donc, bien sûr, il y a une newsletter de Ben Aouda. Vous pouvez vous abonner en flashant le petit QR code que vous voyez à la télévision ou vous allez vous inscrire, bien sûr, sur le site bfmbusiness.com. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée. À très vite pour de nouvelles aventures. 18h58. Je vous donne les grands titres de l'actu dans 2 minutes. Il sera 19h sur BFM Business. À tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.